et lors de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Chute, on écoute la télé avec Mazagran Immobilier. La Maz Team vous propose toute transaction immobilière pour particuliers et professionnels et une connaissance parfaite de son secteur. Mazagran Immobilier, c'est 4 agences sur les 2 Charentes à votre service. Angoulême, Barbezieux, Villebois-Lavalette, Saint-Genis-de-Saint-Onge et sur mazagran-immobilier.com.
Chute, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chute, on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente. Attitude.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Chute, on écoute la télé, l'hebdo sur Attitude. J'ai le plaisir de vous accompagner pendant une heure, pendant votre déjeuner, entre 13h et 14h. On va passer en revue ensemble l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, sans plus tarder, voici tout de suite le sommaire.
Chute, on écoute la télé, le talk show radio.
Avec Samuel Alain Bitbol qui va nous rejoindre dans une poignée de secondes. Il joue le rôle de Rémi dans Un si grand soleil. Il va faire son retour aux écuries puisque Rémi s'occupe des chevaux dans la série. Samuel Alain Bitbol, atteint de trisomie 21, est un acteur incroyable que l'on va accueillir avec un grand plaisir. Et puis nous allons également aujourd'hui parler d'un véritable coup de cœur télé et doucement rallumer les étoiles qui est diffusé mercredi sur France 2. À cette occasion, la révélation en tout cas de cette fiction Cassiopée Mayence va nous rejoindre accompagnée du réalisateur Thierry Petit, mais également de David Morat et Elodie Frank. Jean-Jacques Hano également sera aujourd'hui notre invité exceptionnel. On va parler de Notre-Dame brûle, de ses projets, de ses aspirations, de ses envies au cinéma. Tout va y passer avec donc Jean-Jacques Hano. Et puis en fin d'émission, c'est Fabien Wolfrom, il joue Louis Guinaud. On va parler évidemment de Louis dans Ici tout commence, mais de ses projets de Bardo et de toutes ses envies. Fabien Wolfrom sera notre invité en fin d'émission.
Raymond, j'ai une très très bonne blague, mais je te l'ai peut-être déjà racontée.
Elle est drôle?
Très.
Alors non, tu ne l'as jamais racontée. Bah, qu'est-ce que t'attends? Vas-y.
T'es trop con.
Ah bah si, tu me l'avais déjà raconté.
Oui, et c'est certainement la plus mauvaise blague que Huguette nous fait, effectivement, nous ayant quitté vendredi dernier. Marion Gann s'en est allée à l'âge de 84 ans. Nous souhaitions lui rendre un hommage en cette ouverture d'émission, elle qui a tant illuminé nos soirées sur M6 dans Scène de ménage, qui a incarné également la mère de Stéphane Hénon dans Plus belle la vie. Tellement de beaux rôles au théâtre, au cinéma. C'était une actrice qui avait une énergie absolument communicative et assez incroyable. Et moi, je me souviens d'une rencontre. C'était ma première interview avec Marion Gann. C'était en 2013. Scène de ménage était à l'antenne depuis maintenant quelques années. Nous avions eu l'occasion de rencontrer Marion Gann. On va vous repasser cet entretien, une partie de cet entretien en tout cas, avec Marion, qui n'avait pas du tout lésiné sur le coup de cœur qu'elle avait eu pour mon t-shirt ce jour-là. On vous laisse apprécier et on revient juste après.
Dites-moi, sur votre t-shirt, Gignos, c'est pas un peu gonflé quand même comme titre? Vous êtes sûr que vous pouvez assumer ça?
Oui, j'assume tout, moi. J'assume tout, Huguette.
D'accord, d'accord.
Ça vous fait quoi d'être l'ouverture du Festival de la Fiction Télé?
Bah écoutez, j'ai très peur parce que je ne sais pas si j'ai apporté la bonne robe, monsieur. J'espère que j'aurai de quoi me vêtir pour assister à cette cérémonie quand même assez prestigieuse. Mais c'est vrai que ça va nous faire drôle parce qu'on a plein d'invités formidables, vraiment, vraiment. Écoutez, on a eu des invités tout à fait remarquables. On a eu Catherine Jacob, on a eu Francis Perrin, enfin je vous dis pas tout. Des tas. On a été vraiment, vraiment très gâtés avec les guests.
Et Raymond, qui est dans les parages, qui est pas très très loin, sera avec vous ce soir. Vous êtes le couple star de Scène de ménage. Et d'ailleurs, ça tombe bien, parce que c'est le public aujourd'hui qui vous élit très souvent le couple préféré de Scène de ménage.
Ça, je comprends pas très bien pourquoi, parce que franchement, entre Raymond, qui est strictement odieux, antipathique, détestable, et moi, qui suis une pauvre femme avec les bras sur les chevilles, je comprends pas comment le public nous choisit. Mais c'est génial. On prend ça, mais de plein cœur, avec bonheur, avec tendresse, et c'est c'est très très émouvant, très émouvant. L'amour du public actuellement, ça nous porte à bout de bras avec Gérard, et on est trop heureux de ça, quoi, vraiment.
Justement, c'est ça qui est incroyable, c'est que le public vous élise couple préféré. Finalement, même si vous êtes odieux à l'écran, enfin surtout Raymond, finalement vous êtes les grands-parents idéaux.
Oui, je pense, je sais pas très bien pourquoi, ça c'est quand même compliqué parce qu'on est vraiment sordide, mais je crois que secrètement, on représente des personnes âgées qui sont encore en action, enfin qui avons encore du répondant, on va dire, et secrètement, on est peut-être ce que les gens n'oseront jamais être. Des fois, une dame m'avait dit ça une fois dans la rue, mais comment vous êtes aussi monstrueux avec les autres? Je lui ai dit, écoutez, essayez de réfléchir, imaginez l'éducation. Vous n'avez pas reçu l'éducation que vous avez et le secours de la religion. Foncièrement, vous êtes mauvais à l'intérieur. Vous feriez ce qu'on fait. Vous êtes retenu. C'est le secours de tout ça qui fait que vous retenez le cheval. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Voilà, c'est vrai, l'éducation, la religion, les freins qu'on vous impose un peu dans la vie dès que vous êtes enfant. Sans ça, votre fond profond, c'est de prendre le gourdin et d'aller à la chasse et de tuer le dinosaure et de tuer son voisin et d'être méchant, quoi. Et nous, on ose être ça. Et donc, les gens se projettent dans cette vision un peu détestable, mais finalement, bienfaitrice pour eux, quoi.
Peut-être que vous dites justement beaucoup de choses tout haut, ce que beaucoup de gens balancent tout bas, finalement.
Absolument. Je vous dis, c'est l'éducation. On n'ose pas dire les choses. Alors que nous, on y va franco de port, parce qu'on a une barrière, on a quelque chose de secours, c'est l'amour qu'on a l'un pour l'autre. C'est notre barrière à nous.
Merci Marion, en tout cas, pour tous ces bons moments.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à Si Grand Soleil avec Samuel Alain Bitbol, qui a fait son arrivée dans la série depuis maintenant quelques mois. Il est avec nous, il incarne à nouveau le rôle de Rémi, puisque c'était celui qu'il incarnait aussi dans Plus belle la vie. Merci d'être avec nous, Samuel.
Moi, je suis très honoré d'être avec vous aussi, donc je suis très ravi et heureux, surtout.
À Si Grand Soleil, une belle expérience, dis-moi encore, et surtout que là, tu tournes beaucoup avec des animaux que tu aimes particulièrement. Des chevaux.
C'est ça, les chevaux, oui. C'est vrai que je tourne beaucoup avec des chevaux. Alors, je suis avec Noémie aussi, qui m'aide beaucoup, donc forcément, ça aide. Et à chaque fois, dès qu'il y a des petits trucs comme ça, bah, elle est là avec moi, quoi. Et ça, je suis ravi parce que, à ce grand soleil, il m'a rappelé pour rejouer encore un Rémi, donc Rémi. Sur ce grand soleil. Et du coup, il m'a rappelé parce que je jouais sur une scène. Sur un incendie, justement.
Qu'est-ce qui t'a plu dans ce rôle?
Beaucoup de choses, surtout de la joie, surtout plein d'émotions.
Ça t'a permis de laisser passer plusieurs palettes d'émotions différentes, justement, là?
Beaucoup, ouais, beaucoup, ouais.
Tu as la sensation, quand même, de rentrer dans la cour des grands. J'irai au bout de mes rêves, Meurtre en pays Qatar, Plus belle la vie, Un si grand soleil. Franchement, c'est le bonheur, tous ces rôles qui s'ouvrent à toi. Mention particulière, évidemment, on va l'oublier parce que c'est la comté de découvert, quand même, aussi.
Aussi, ouais, c'est vrai. Là où tu as raison, là, je suis arrivé devant la cour des grands, ça me touche, quoi, parce qu'en fait, en fin de compte, c'est enfin, quoi, enfin.
C'était un rêve,
ouais.
Tout petit, de jouer, de faire la comédie, de jouer avec les caméras.
Ah oui, vraiment, c'est mon rêve, là, c'est en train de se réaliser, en fait.
Quel rôle tu rêverais d'incarner, Samuel?
Moi, c'est plein d'autres rôles, à vrai dire.
Comme un truand, un brigand, un cuisinier.
Moi, ça m'est égal, en fait. Tant que je suis l'acteur.
Et que tu t'amuses.
Et que je m'amuse. Et que je donne beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Et que je donne beaucoup d'émotions aux fans. Pour moi, ça me fait plaisir. Vraiment de jouer pour eux.
Quelles sont tes plus belles rencontres dans le métier? Je sais que tu as eu beaucoup de belles émotions à jouer avec Camille Lou, notamment, dans J'irai au bout de mes rêves. Mais j'ai l'impression que tu as fait des très très belles rencontres qui resteront marquées pour toi.
Bah, déjà, c'est dans J'irai au bout de mes rêves. Déjà. Parce que c'est vrai que J'irai au bout de mes rêves, ça m'a permis de me relever. Parce que, vous savez, avec Stéphanie Pinonka, c'est vrai que. Qu'est-ce que je l'aime, cette réalisatrice? Parce que c'est vraiment le Nirvana, quoi. J'ai tourné avec. Même pas, je veux pas dire le Nirvana, je veux dire carrément et vraiment. Et je suis très touché par elle, parce que c'est vraiment une belle réalisatrice. Et après, je veux te dire vraiment, elle est sublime, quoi. J'ai pas eu de mot à dire, elle est au top.
Ça fait partie de tes plus belles rencontres?
Oui, vraiment. De mes plus belles rencontres. Elle, et aussi, surtout, j'ai pas oublié, Camille Lou. aussi Guillaume de Donquédec et Christine Réalé.
Eh bien, non, du beau monde. Rémi revient dans un si grand soleil. Dans quelles conditions? Qu'est-ce que tu peux nous dire, sans nous en dire trop?
Alors, déjà pour commencer, là je reviens sur ce grand soleil. Apparemment, ils m'ont fait revenir parce que, apparemment, je dois jouer une scène. La scène, c'est l'incendie. Comme ça, je te dis pas trop.
Ouais, c'est un incendie qui va impacter plusieurs personnages.
Je pense, oui.
Bon, Samuel, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
Beaucoup de joie. Surtout la santé, des beaux rôles, que j'ai pu tourner beaucoup. Il y a juste un truc par contre que je voudrais dire sur l'interview, que j'aimerais bien qu'ils écoutent les filles, j'aimerais bien avoir une copine.
Voilà, bon, ça c'est fait. Bon, un si grand soleil, est-ce que pour terminer, est-ce que t'as d'autres projets? Est-ce que t'as tourné des choses qui vont être diffusées bientôt ou est-ce que t'es en pourparlers sur peut-être d'autres projets futurs?
Beaucoup de choses à faire, donc forcément oui, j'ai un rôle que je peux peut-être jouer avec Tommy Weber. Il m'a écrit et après je ne te dis pas plus quoi.
Bon, c'est la surprise. Tu reviendras.
C'est la surprise quoi.
Exactement. Merci Samuel. Et à très bientôt.
Et à très bientôt.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. A tout de suite. Le Talk Show Radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, on démarre notre spécial et doucement rallumé Les Étoiles, le film diffusé cette semaine sur France 2, un magnifique film sur le mal-être des adolescents. Un film très vrai, brillamment interprété avec un casting mais totalement hallucinant. Elodie Frank, David Morin, Marie-Christine Barrault et puis Cassiopée Mayence qui est justement avec nous. Bonjour Cassiopée.
Bonjour.
C'est l'héroïne pour moi du film. Elle est incroyable Cassiopée. On va y revenir dans un instant. Thierry Petit, ton réalisateur, est également avec nous. David et Elodie vont nous rejoindre aussi dans un instant. Où est venue l'idée déjà de cette histoire, du sujet qui a donné le déclic?
C'est Perrine Fontaine qui a amené le sujet. Elle a été elle-même touchée de près par le suicide. Et donc elle a cherché un roman qui pouvait l'aider dans l'écriture. Voilà, elle a travaillé sur le scénario avec Lorraine Delannoy. Et puis au bout de 3 ans, je crois, le projet s'est lancé enfin en chaîne. Il a été validé et donc Perrine est venue vers moi, m'a proposé le sujet et elle m'a fait ce cadeau puisque c'est un sujet magnifique à travailler quoi. Voilà.
Alors comment vous avez fait pour trouver Cassiopée?
Alors on procède toujours de la sorte, hein, on fait du casting, donc on rencontre nos castings, on rencontre différentes jeunes filles. On n'a pas rencontré des 1000 et des 100 non plus, hein, parce que des filles qui ont l'âge, ça court pas les rues, des bonnes actrices, ça court pas les rues, etc. Donc on avait à peu près une dizaine de filles. Et il s'avère que Cassiopée, elle s'est détachée très facilement du lot, quoi. C'est comme une évidence. C'est sa disponibilité, sa technique. Pour une jeune fille de son âge, elle est brillante. Ensuite, c'est une belle personne. C'est un élément aussi extrêmement important dans le travail, parce que quand on travaille sur la famille et sur la douleur comme ça dans un film, il faut avoir une vraie équipe technique et une vraie équipe de comédiens qui soient capables de travailler ensemble avec une certaine forme de pudeur, de respect de l'autre et de désir de travailler. Donc voilà. Ensuite, on a fait des essais vraiment très précis et pointus avec elle. Il y a même une petite anecdote parce qu'elle est venue en callback. À l'époque, elle avait des cheveux longs et donc on pensait bien sûr métamorphose entre les deux sœurs, donc raccourcir les cheveux, perruque, pas perruque, enfin etc. Et on s'est dit, elle a un beau volume de cheveux, donc pour une des deux sœurs, il y en a une qui sera un peu plus longue et l'autre qui aura les cheveux un peu plus tenus. Et malheureusement, il lui est arrivé un petit incident à l'école. Elle s'est retrouvée avec des chewing-gums dans la chevelure et il a fallu couper les cheveux. Donc elle a perdu ça. Donc au callback, on s'est dit oups. Et puis voilà, grand moment de solitude, elle était très triste. Et puis voilà.
Ça t'a mis un moment de panique.
Non mais c'est vrai. sur ce genre de projet-là, passer à côté juste pour des cheveux, franchement, ça aurait été horrible.
Vous allez voir Cassiopée, dans ce film, tu es juste incroyable. Tu arrives à jouer Camille et Marie, tu arrives à jouer vraiment le yin et le yang avec vraiment cette jumelle un peu solaire, heureuse de vivre, et après cette jumelle, qui a quand même un mal-être fermé. Et c'est toi qui incarnes les deux. Donc il faut bien le dire parce qu'il y a des gens qui vont vraiment croire que c'est des jumelles qui incarnent le rôle. Ça, c'est sûr et certain. Comment t'as fait pour faire ça? Comment tu t'y es préparé?
Déjà, j'ai beaucoup travaillé avec Thierry et Perrine en amont du tournage. Déjà pour créer la psychologie du personnage. Parce que c'est vraiment hyper minutieux comme travail. On a travaillé les démarches, les façons de parler, les façons de se tenir. Ouais, c'est un travail hyper minutieux parce que c'est hyper délicat de jouer deux rôles dans dans un seul film.
Avec des caractères opposés, mais j'ai trouvé ça mais totalement dingue quand j'ai su que c'était toi qui jouais les deux.
C'est ça, c'est qu'il faut arriver à se différencier nous-mêmes. C'est hyper intéressant comme travail. En tout cas, ça m'a beaucoup enrichi.
Ça devrait être un sacré challenge.
Oui, oui, et puis il y a encore une autre subtilité, c'est-à-dire que de jouer deux sœurs, c'est une chose, mais là, celle qui reste va subir une évolution liée au fait qu'elle a perdu sa sœur, et elle va petit à petit commencer à essayer de lui ressembler, de se mettre dans ses chaussures, de se mettre dans ses habits, de s'identifier à elle, avant de créer sa propre nouvelle identité. Donc elle, en réalité, elle joue les deux sœurs, mais une sœur qui va avoir une trajectoire qui se résume à une année à peine, mais qui est une trajectoire d'une évolution énorme. Donc il y avait ça aussi qu'il fallait intégrer dans son rôle et sa composition.
Oui, parce que je pense que dans son inconscient, elle essaye peut-être justement de se transformer pour peut-être soulager ses parents, je sais pas, mais c'est vraiment un drame qui arrive dans cette famille où tout le monde est heureux, c'est une famille avec ces deux jumelles jusqu'au jour où l'une d'elles se jette d'une falaise avec des poids aux pieds, et c'est vraiment le truc le pire, horrible qui peut arriver, surtout quand il reste une jumelle, donc faut que les parents d'une déjà dévastée tiennent le coup en quelque sorte, si c'est possible encore de pouvoir tenir le coup dans ce genre de situation, pour celle qui reste. Donc c'est vraiment l'histoire la plus horrible qui peut arriver, et à la fois un film sur le mal-être adolescent qui est juste dingue. Donc vraiment bravo pour ça encore.
Merci. Non, on avait ce qui est aussi très très dur pour son personnage, c'est de voir le regard des autres, de ses parents en l'occurrence, parce qu'il voit celle qui est partie à travers elle. Donc ça c'est très compliqué, mais il y a aussi les copines de collège partout. Donc c'est aussi ça qui est lié à un moment donné à un besoin d'identification, de reprendre les fringues de sa sœur aussi. C'est-à-dire qu'il y a un côté aussi ado qui va être de la provocation. C'est moi aussi, je suis capable de faire comme ma sœur faisait. Et en même temps, je vais aller l'insulter à un moment donné, parce que je vais aller sur la falaise, parce que je vais aller lui dire mes quatre vérités, elle s'est barrée. Voilà, il y a tout ça, il y a toute cette colère et il y a toutes ces choses-là qui sont habitées. J'ai failli l'adopter. Hein.
Je suis pas étonné. Hein.
J'ai trois garçons, j'ai jamais eu de fille. Là, j'ai failli l'adopter. Quoi.
Mais j'avoue qu'elle nous bouleverse. Franchement, tu étais vraiment bouleversante. Donner un réplique à des gens comme Elodie, comme à David Mora. Je suppose que David, tu l'as vu dans Scène de ménage, Elodie dans Les petits meurtres d'Agatha Christie. Ça devait être un bonheur pour toi.
Ah, c'était génial. Déjà, ne serait-ce que les rencontrer, parce que c'est des personnes géniales. Franchement, travailler avec eux, c'était dingue. Et puis même de passer de l'écran de télé à les voir en vrai et à pouvoir discuter avec eux, de pouvoir jouer, interagir, c'est génial. C'est génial.
Quelle a été la scène la plus dure pour toi?
Je pense les scènes sous-marines. Ouais. On est d'accord.
Parce que pour elle, ouais, ça a été très dur pour elle.
Les scènes sous-marines, ouais, elles ont été sportives.
Ici, à Cassis, l'eau est froide déjà, et on était au mois d'avril. Donc voilà, et c'est pas facile. Quoi. Donc il y a les combinaisons, mais pas que, et on peut pas mettre des énormes combinaisons. Et puis il fallait rester longtemps dans l'eau. Enfin voilà, malgré toutes les précautions qu'on a pu prendre, ça a été un cauchemar pour elle. Ça a été très dur.
Tu as conscience quand même du message que tu vas porter, peut-être à aider les parents à y voir plus clair sur des ados qui leur cachent souvent bien leur jeu, ou tout simplement des ados en mal-être à peut-être mieux vivre. Est-ce que tu as conscience de porter ce message à travers ce film?
Je pense que ce film va aider beaucoup de personnes. Je parle aussi en connaissance de cause, vu que j'ai des amis qui sont suicidaires et qui ont perdu certains de leurs proches. Donc j'ai pu aussi discuter avec eux. Et c'est vrai que porter ce genre de message, c'est lourd quand même, parce que c'est pas, on parle pas non plus d'un sujet très léger. Si ça peut aider des gens, moi c'est le but premier, d'aider les gens, de faire comprendre aussi parfois, même si c'est pas complètement, totalement possible de comprendre, de faire passer ce message là, c'est une grande responsabilité et j'en suis très fière en tout cas.
On va écouter la bande annonce et juste après on se retrouve avec David Mora et Elodie Frank qui nous rejoignent. Merci à vous deux.
Merci à vous, grand plaisir.
Merci beaucoup.
L'enquête a exclu toute intervention d'une tierce personne dans le décès de Marie.
Alors pourquoi?
C'est terrible, mais c'est son choix.
On était les jumelles. Aujourd'hui, je suis qui, moi?
Allez, faut se forcer.
C'est ça que tu proposes? On n'essaye pas de comprendre comment on en est arrivé là.
Mais il y a des milliards de raisons pour lesquelles on en est arrivé là.
Forcément, elle t'a parlé. Qu'est-ce que tu lui as dit?
Qu'est-ce que tu lui as fait?
Non! Combien de temps tu vas nous punir? On dort plus ensemble. Camille s'est réfugiée chez sa grand-mère. Notre famille est en train d'exploser. Tu crois que c'est ce que Marie aurait voulu?
Et on continue notre spécial Et doucement rallumer les étoiles qui va être diffusé donc cette semaine sur France 2. On continue à en parler en déroulant tout doucement cette belle histoire, cette magnifique histoire et cette dure histoire. Par la même occasion avec Elodie Frank et David Morin qui nous rejoignent, les parents de la petite Marie. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Merci d'être là. On vient de planter un peu le décor justement avec Thierry Petit, avec Cassiope Mayence. Histoire très difficile puisque là on parle quand même du suicide d'une fille de 15 ans qui laisse sa jumelle et ses parents dans un désarroi. voix absolument totale. Comment on peut arriver à se préparer à un rôle comme ça, tous les deux? Parce que alors, moi qui est habitué à te voir, Élodie, dans les petits mères de Agatha Christie, vive là, waouh.
Bah, alors là, j'ai regardé des vidéos de témoignages de maman. J'ai appelé une association qui s'appelle Le Phare. J'ai essayé de me plonger là-dedans. L'époque était bien glauque. On commençait à savoir que le service de psychiatrie des ados explosait. Donc c'était un sujet de société qui m'intéressait. Et voilà, dans lequel je me suis plongée complètement. Voilà, donc c'est un nouveau personnage, de nouvelles énergies, de nouvelles façons de parler. Voilà, c'est comme ça que je me suis préparée.
Et toi, David? Parce que là, on est loin de Fabien, évidemment, aussi, hein, de scène de ménage.
C'est sûr. Moi, c'est surtout voilà le scénario écrit par Perrine Fontaine et du coup sa co-autrice
Lorraine Delannoy,
voilà, qui du coup m'a scotché en fait, parce que voilà, ce destin tragique, c'était tellement fort et intéressant à jouer que voilà, on se laisse porter par chaque scène. Chaque scène est bouleversante.
Le scénario est dingue, l'intensité est dingue. Dès le début, on plonge dans une famille heureuse, tout va bien, c'est le bonheur absolu avec ses deux jumelles. Et puis là, vraiment, c'est la tragédie. On sent vraiment que tout le monde s'effondre, tout le monde de cette famille s'effondre autour d'eux.
C'est ça, la famille explose. Ce qui est intéressant, finalement, c'est de voir les rapports qu'ils entretiennent les uns entre les autres, que ce soit Laure et sa mère. Elles ont aussi un passif compliqué.
Incarné par la magnifique Marie-Christine Barrault.
Ouais. Qui a une scène d'ailleurs dantesque dans le téléfilm. Voilà, et voir en fait chacun de ces personnages voilà, se reconstruire à sa manière, à sa vitesse. C'était très fort à jouer, ouais.
Comment on décompresse ce soir? Alors, quand on vit des journées de tournage comme ça, aussi intenses?
Moi, je peux le dire que moi, ça m'a pas du tout convenu ce Covid, parce qu'on était à Cassis et que tout était fermé et qu'on était obligé d'être chacun chez soi et qu'on peut pas aller au resto et qu'on est seul face à sa télé. David, il a adoré, moi j'ai détesté.
Non, en fait, c'était une période effectivement où on était content de travailler parce que rien nous assurait que ça allait vraiment se faire, parce que voilà, les conditions sanitaires, c'était toujours un peu variable. Hein. Mais moi, ce que je remarquais quand j'étais devant la télé le soir, parfois dans mon petit appart,
j'avais besoin de regarder de la comédie.
Non, mais en fait, même si entre les prises on peut rigoler, enfin voilà, il n'y a pas une ambiance très, enfin voilà, on n'est pas plombé non plus hors scène, mais par contre le fait d'avoir pleuré toute la journée, bah on a un petit truc de voilà, je pense que comme une journée où en comédie on joue beaucoup le rire, et bah à l'inverse quand on joue beaucoup les larmes, ça on sent la fatigue du, et puis une espèce de pas de dépression, parce que c'était pas le cas, mais il y a quelque chose, on sent que c'est pas anodin quoi, qu'on a joué des choses, des scènes qu'on aurait pu vivre nous-mêmes et que du coup ça a un petit impact.
On n'en ressort pas indemne, oui. De toute façon, un tournage comme ça, c'est pas possible.
Ben moi, je croyais qu'on pouvait comme ça prendre de la distance par rapport au rôle et puis ne pas se laisser gagner par le rôle. Mais je pense qu'il faut pouvoir décompresser justement, et que là, il y avait une solitude qui était double peine par rapport au rôle à interpréter, et puis de se poser la question tous les jours de comment je vais dire ça, j'ai perdu mon enfant, qu'est-ce que ça me fait vraiment. Ben moi, ça a commencé à pas mal m'entamer, ouais. Voilà, mais après...
Tenir le coup pour celle qui reste, parce qu'il en reste une sur les deux quand même. Il faut arriver, elle qui est déjà, qui perd sa jumelle et qui voit ses parents dans cet état-là. Enfin, c'est juste un scénario catastrophe, là.
Et puis, c'est compliqué pour nous, parents, de s'occuper d'elle, parce qu'on est encore sous choc, en fait. Donc, elle-même, à un moment donné... va aller se réfugier chez sa grand-mère, parce que elle voit bien qu'on n'est plus vraiment là quoi. En fait, chacun essaye de penser à sa douleur, alors que finalement elle est là, et il faudrait plus qu'on s'en occupe quoi. Mais
ça filme terriblement de société, hein, parce qu'aujourd'hui le mal-être des ados, on en parle de plus en plus, c'est de plus en plus présent. Le Covid en plus a encore amplifié le phénomène, mais c'est très très d'actualité là.
Alors, Alors, si ça peut permettre aux gens d'oser en parler, c'est ça qu'il faut, en fait. Dès le moment où on en parle, c'est déjà un pas vers la guérison, mais simplement, il y a la honte de penser ça, la peine qu'on peut faire à ceux qui vous entourent. Enfin, tout ça empêche la parole. Peut vraiment avoir de raisons objectives, enfin, pas y croire soi-même. Et alors là, c'est vrai que si ça peut délier les langues, ou si... moi, l'effet que ça m'a fait personnellement, c'est de me dire « Oh là là, t'es attentive à qui sont tes enfants et à ce qu'ils ressentent en ce moment, t'es pas un petit peu trop en tournage et tout et tout ?» Voilà, donc vu que ça a fait ça sur moi, je pense que ça peut faire ça aussi sur les autres gens. On doit être conscient de qui sont vraiment nos enfants et ce qu'ils traversent, et apprendre à les questionner.
Plus attentif.
Ouais, apprendre à les questionner, à être attentif à eux.
S'il faut, voilà, si ça peut servir effectivement que voilà, les parents peut-être aient des clés pour mieux comprendre des signes qui pourraient montrer peut-être une dépression, un mal-être, quelque chose.
Les enfants sont très forts pour cacher, donc il faut pas culpabiliser les parents. Le film aussi le montre, qu'il n'y a pas forcément de signes avant-coureurs. Bon, il s'avère que les parents, ils ont pas lu les textes, ou bien ils auraient pu lire les textes en se disant « Oh, qu'elle écrit bien, cette poétesse », alors que c'était tragique. Bon, tous les enfants qui écrivent des choses noires se suicident pas, donc non, il faut pas culpabiliser les parents. Mais on peut essayer, peut-être, ou de donner la possibilité à l'enfant d'aller voir quelqu'un.
Oui, puis c'est horrible de se dire que voilà, son enfant finalement a des pensées suicidaires, et pour protéger ses parents va donner le change, va montrer une belle
facette,
notre facette, être très solaire, très pétillante, très 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 vivante, et du coup on tombe d'autant plus haut puisqu'on ne s'attend pas du tout à ça. Alors effectivement, peut-être, ça veut dire qu'il faut fouiller dans les affaires de ses enfants pour aller chercher des indices, mais peut-être que parfois ça peut aider
parce qu'il est dans la paranoïa quand même aussi.
Ouais, bien sûr. Moi, ça m'a un peu rendu parano en fait. Et mon fils n'a que 10 ans, mais il a eu un côté, on est revenu en disant to be or not to be. J'ai fait non, no question, c'est to be. Il n'y a pas de not to be.
Doucement rallumer les étoiles, c'est donc cette semaine sur France 2. Ne le manquez pas. Un magnifique téléfilm de Thierry Petit avec Cassiopée Mayence qui vous entoure, Marie-Christine Barrault. Un casting incroyable autour de vous. Merci à tous les deux d'être passés nous voir.
Merci beaucoup, merci.
Merci Alain.
L'invité d'honneur de la semaine.
Après quelques années, les deux retours dans Chut, on écoute la télé. Quel bonheur de recevoir pour la deuxième fois Jean-Jacques Hano qui est avec nous après Le Dernier Loup. C'est en 2015. Jean-Jacques, nous fait le plaisir d'être de retour parmi nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors l'année dernière, on a eu le droit évidemment à ce film, à grand spectacle sur Notre-Dame. Notre-Dame brûle. C'est une nécessité, c'est une envie viscérale de rendre hommage eh bien, à tous ceux qui ont lutté pour essayer de sauver ce qui était sauvable finalement de Notre-Dame.
Notre-Dame est un bâtiment qui a beaucoup compté pour moi quand j'étais enfant. J'habitais la banlieue et ma maman m'emmenait tous les week-ends, et parfois même le jeudi, à Paris pour jouer les musées, etc. Et on débarquait tout le temps à une station de train qui s'appelle Paris-Pont-Saint-Michel. Et quand on montait les marches, la première chose que je pouvais voir en étant petit, c'était cette cathédrale merveilleuse. C'était un bâtiment sacré chez moi. On n'était pas du tout religieux, mais le fait de rentrer dans cet endroit où il y avait généralement l'organiste qui répétait au grand orgues, le parfum de l'encens, les bougies, et puis cette merveilleuse architecture. Donc si vous voulez, j'ai toujours été, moi, assez bouleversé. Alors que je ne suis pas du tout religieux, je ne suis pas croyant, mais je suis croyant en la beauté, je suis croyant en la méditation, je suis croyant... J'aime la foi des autres, voilà. Et j'aime les lieux sacrés, quels qu'ils soient. Mais évidemment, je suis de culture française, donc de culture catholique, j'ai été baptisé. J'ai toujours une émotion quand je rentre dans une église ou d'une petite chapelle, parce que ce sont des lieux importants, c'est des lieux de rassemblement. S'il y avait eu un incendie dans un supermarché, je ne suis pas sûr que j'aurais fait le film. Mais là, vous savez, c'est un bâtiment symbolique, mythique, c'est le bâtiment le plus visité du monde, hein. C'est beaucoup plus que la Tour Eiffel, et à peu près à l'égalité avec la Cité Interdite. Donc, si vous voulez, quand ce bâtiment a subi cet incendie, c'est un lieu, je me suis aperçu, qui était un lieu symbolique de la culture occidentale, et du coup, un lieu symbolique de l'Occident. Et même les gens qui n'aiment pas forcément l'Occident, ce qui est le cas par exemple des Chinois, moi j'ai fait des films en Chine que j'ai beaucoup aimé, mes amis chinois m'ont raconté que beaucoup de leurs amis, qui n'étaient pas du tout catholiques, étaient en larmes. Parce que c'est comme si, je sais pas, c'est une bombe qui tombait sur les pyramides. C'est un symbole de l'humanité. Et c'est pour ça que cet incendie a eu un tel retentissement. Et la raison pour laquelle j'ai fait le film, c'est que je me suis aperçu en lisant de la documentation que personne ne savait la réalité de ce qui s'était passé. En fait, c'est un miracle que ça a été sauvé, grâce évidemment à l'extrême compétence des pompiers, leur dévouement. Mais il y avait dans tout ça un véritable film à suspense. Vous savez que la France est la première destination touristique du monde, que Paris est la première destination touristique parmi toutes les villes, et que tout le monde va à Notre-Dame. Tout le monde ne va pas à la Tour Eiffel, parce que il faut payer d'abord. Notre-Dame, c'est gratuit. Et puis, il y a ça, c'est dans le plus beau quartier, un des plus beaux quartiers d'Europe, finalement. C'est très charmant, cette cathédrale construite au XIIe siècle sur cette île ravissante, entourée d'arbres fleuris. Donc, si vous voulez, les gens viennent visiter ça. Et donc, il y a eu une douleur de tous. Et ce qui a émerveillé tout le monde, c'est le travail des pompiers. Et moi, quand j'ai lu la documentation, quand j'ai rencontré les pompiers, j'ai vu que j'avais là un véritable scénario émouvant, tendu au plan du suspense, alors que tout le monde connaît la fin. Mais ça n'a pas d'importance. Comment on est arrivé à sauver la cathédrale, c'est ce que raconte le film, malgré l'incroyable accumulation de faux pas, d'erreurs, de difficultés de tous ordres. Et ça m'a passionné. Et aussi de curiosité. Moi, quand j'ai lu la documentation qui me venait, soit des pompiers, soit de l'archevêché, etc., au début, j'y croyais pas. Je me suis dit, c'est pas possible qu'il y ait tant d'emmerdes. Non, mais attendez, mais vous dites, c'est incroyable. Mais qu'est-ce que c'est que ces dysfonctionnements? Et du coup, c'est très très bons éléments. Parce que quand vous avez. C'était un peu une course-poursuite, en fait. Oui, vous avez un grand corps malade, j'ai envie de dire, qui est celle d'une star internationale, Notre-Dame de Paris, qui est mon héroïne, en vérité. Et puis, les bons docteurs qui n'arrivent pas à venir. D'abord, ils ne sont pas prévenus. Ensuite, le matériel ne peut pas passer parce que Paris est Paris, les Parisiens sont les Parisiens. Et les Parisiens, ils préfèrent bloquer une voiture de SAMU où il y a un enfant malade pour faire un selfie, pour envoyer à leur grand-mère, d'eux-mêmes devant la cathédrale qui fume. Donc, si vous voulez, il y a tous ces éléments. Il y a aussi les travaux pour les Olympiques, l'incompétence hallucinante des services de la mairie. Donc, si vous voulez, tout ça s'accumule. On se dit, mais c'est pas possible quand même que dans l'une des grandes capitales du monde, il y ait autant de dysfonctionnements. Eh ben, si.
Et finalement, ça crée des éléments scénaristiques qui sont juste, c'est du pain béni, quoi.
Mais bien entendu, si vous voulez, un film, c'est toujours de s'identifier avec un problème. Et qui fait que je me suis moins régalé à faire ce film. Techniquement, c'était très gratifiant. En plus, ça, si vous voulez, le feu, c'est dangereux. C'est comme les animaux sauvages. C'est beau. Même les pompiers, vous voyez, les pompiers sont souvent de faction en faction à l'opéra, par exemple. Et eux-mêmes disaient, c'est tragique de le dire, c'était effrayant, mais c'était beau. Ben oui, parce que si vous voulez, encore une fois.
C'est fascinant, il y a une espèce de fascination, oui.
Ben oui, et encore une fois, quand vous avez une structure métallique d'un supermarché qui brûle, bon, ça fait des images de feu. Là, on voit beaucoup d'images des immeubles détruits. Bon, c'est d'immeubles civils, faits dans les années 60, en béton. Là, ça a été l'endroit où Napoléon a été couronné, ça a été l'endroit où Saint-Louis a déposé la relique la plus précieuse de l'histoire de la chrétienté. Donc, si vous voulez, c'est autre chose, ça prend une autre dimension.
Les techniques, les images sont époustouflantes. Jean-Jacques, comment on s'y prend pour arriver à reconstituer tout ça? J'imagine qu'il y a beaucoup d'effets numériques, mais il y a dû y avoir aussi des scènes assez difficiles à mettre en boîte.
Ben, si vous voulez, le fait que ce soit effectivement très spectaculaire fait que les gens pensent que c'est essentiellement fait en numérique. Ça m'énerve assez, parce que en fait, tout a été refait à l'identique, en studio, avec du vrai feu, des vraies flammes, des décors qu'on va vraiment brûler, qu'on a reconstitué à la même dimension, avec les mêmes pierres. On a utilisé des sculpteurs pour refaire les statues à l'identique. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, le problème, c'est que, je vois mes anciens films, si c'était des films contemporains, on penserait que c'était des films faits en numérique. Parce qu'on ne pourrait pas imaginer que dans un film comme Stalingrad, Enemy at the Gates, que je faisais 90 vraies explosions sur chaque plan. On ne pourrait pas imaginer que je fais cracher des avions pour faire dans une cascade aérienne. Donc aujourd'hui, le monde du cinéma est devenu tellement artificiel et bidon que quand on fait du vrai, les gens pensent que c'est bidon. Vous savez, un film comme L'Ours que j'ai été revoir à Copenhague la semaine dernière, mais je me disais en regardant le film, il doit y avoir des gens qui doivent penser que j'ai fait ça en numérique. Parce que les animaux ont tellement fait des choses extraordinaires qu'on se dit, mais c'est pas possible, les animaux font pas ça. Mais si, ils font ça. Et que donc, Notre-Dame, ce qui est en numérique, ce sont les choses qu'on ne voit pas, c'est les bords cadres. Donc les deux extrémités où l'œil ne va jamais, je les fais reconstituer en 3D. Ça oui, bien sûr, mais tout le cœur du drame, là où sont les pompiers, là où il y a ces immenses flammes, les flammes, c'est du vrai. Et les pompiers sont véritablement à 80 cm de feu à 800 degrés. C'est un peu désespérant aujourd'hui que on ne croit plus qu'il y ait des plateaux de cinéma où on reconstruit encore des beffrois de cathédrales. Ce qu'on gagne là-dessus, c'est pas non seulement le visuel est mieux, mais c'est surtout le jeu. Parce que quand vous faites la même scène sur fond bleu, vous allez avoir un acteur qui n'a jamais senti le feu, qui n'a jamais entendu le vrombissement monstrueux, la rage du feu, va lui dire, alors tu vois, le bâton que tu tiens, ben, c'est le jet des pompiers, c'est... Alors il y a de la pression, alors tu te reculeras un tout petit peu quand on dira 1, quand tu... Alors, et tu fais semblant d'ouvrir, alors là c'est de l'air qui va sortir, mais en vrai c'est de l'eau. Et puis devant toi c'est un feu, c'est pas un fond bleu. Mais alors l'acteur va faire semblant, mais du coup l'émotion va pas passer. Parce que
on perd en authenticité.
Et ça perd tout simplement en réalisme, en émotion. Le public est très subtil. Il sait pas trop, le public, pourquoi il n'accroche pas à l'histoire. Il n'accroche pas parce qu'il y a des éléments qui lui disent que c'est bidon. Mais quand le cœur, les yeux, le bide vous dit « mais ça sent le vrai », et là vous accrochez. Donc c'est complètement différent. Je fais confiance à l'émotion des acteurs qui va se transmettre au spectateur.
Ça c'est chouette. Et c'est ça aussi qui fait que aujourd'hui on a affaire à du vrai cinéma, du vrai spectacle, parce que c'est ça aussi, on a besoin de vrais spectacles au cinéma. Et c'est ce genre de film évidemment qui nous donne envie et qui va donner envie, en tout cas qui redonne envie d'aller au cinéma. Et ça c'est chouette. Jean-Jacques, prochain projet. J'imagine que ça fourmille déjà.
Bah écoutez, j'ai la chance depuis des années et des années d'avoir au moins, de recevoir au moins un livre par semaine et deux scénarios par semaine de différents pays, que ce soit la Turquie, la Chine, l'Islande, ce qui m'arrive, le Sénégal, les États-Unis évidemment. Là, je mène de front deux projets anciens que j'avais signés il y a quelques années et un projet nouveau sur lequel je passe beaucoup de temps, mais dont je ne peux pas vous parler parce qu'il y a encore des problèmes de signature à Los Angeles, et ce n'est pas des problèmes de financement, ce sont des problèmes de liberté de droit. Donc je ne peux pas encore en parler, je pense que quasiment dans les jours qui viennent, je vais pouvoir le faire.
Pour la télé ? Ça, c'est des choses qui vous donnent envie, comme l'affaire Harry Kébert, d'aller réaliser aussi pour la télé.
Alors écoutez, l'affaire Harry Kébert m'avait beaucoup plu parce que le roman de Joël Utiquaire, je l'avais trouvé passionnant. C'est ce qu'on appelle le page-turn, un bouquin dont on tourne les pages avec avidité. En plus, lui est un homme absolument délicieux et j'avais adoré son roman. Et je voulais depuis longtemps tâter à la télé parce que je voyais bien depuis une quinzaine d'années que le cinéma était en train de se rétrécir, en tout cas au plan des histoires. Le cinéma a tendance à en faire de plus en plus dans la cascade, dans les explosions, choses comme ça, et de moins en moins sur les problèmes du cœur, j'ai envie de dire. Je savais que c'était des méthodes de tournage différentes, j'ai voulu essayer. Ben pour moi, c'était pas tellement différent, je parlais du film. La différence, c'est qu'au lieu de faire une heure et demie ou deux heures de spectacle, j'en ai fait 9. Mais ça m'a plu, beaucoup. Néanmoins, si vous voulez, la vraie grande différence, c'est que quand tous les films que j'ai faits pour le cinéma sont passés à la télévision, ont une seconde vie. plus qu'une seconde. Parfois, si vous voulez, la première vie, en tout cas du nombre de spectateurs, c'est clairement à la télévision. Le mot spectacle m'a beaucoup été reproché. J'ai toujours milité pour ce cinéma-là parce que c'est le cinéma que j'aimais quand j'étais à l'école de cinéma et avant l'école de cinéma aussi. Moi, c'était David Lean, c'était Kurosawa, c'était Kubrick qui m'intéressait. Puis il y a d'autres cinéastes que je trouvais très intéressants, mais j'ai pas envie de faire ces films-là. Et j'ai été assez bousculé par non seulement la critique française, mais mes confrères m'ont reproché de faire des films de divertissement. Donc j'étais une espèce de laboureur de la médiocrité. Parce qu'un des trucs chics en France, c'est de faire un bid honorable, un insuccès bien reçu par Libération et Télérama. Donc ça, si vous voulez, c'est le chic. Faire un film qui trouve son public, c'est pas terrible. Il vaut mieux éviter, parce que là, vous n'êtes plus un artiste. Vous voyez, par exemple, on m'a jamais cité comme auteur. Or, j'écris mes scénarios, je les tourne en toute liberté, je fais mon casting, j'ai la main mise sur le film du début à la fin, ce qui est la définition de l'auteur, mais jamais on imaginerait me dire que je suis un film d'auteur. Pourquoi ? Parce qu'un film qui marche n'est pas un film d'auteur.
Ça, c'est bien dit. Non mais c'est vrai, c'est tellement vrai tout ça. Merci beaucoup Jean-Jacques en tout cas d'avoir passé ces minutes avec nous. On a appris plein de choses en même temps. C'est passionnant et puis j'espère qu'on se retrouvera très vite en tout cas pour les prochains projets.
Mais bien volontiers, écoutez, moi, c'est l'un des plaisirs de ma vie de venir dans les régions de mon pays et de rencontrer les gens, d'échanger avec eux, de passer des soirées à boire un petit coup et à danser sur la piste avec des petites lumières qui clignotent.
Merci beaucoup et à bientôt. Allez, bougez pas, on revient dans un instant. La fin de l'émission avec Fabien Wolfrom, c'est dans une poignée de secondes. À tout de suite.
La télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Notre coup de cœur télé consacré ici, tout commence. Quel bonheur de recevoir Fabien Wolfrom, qui est notre invité. Petite visite annuelle, mon cher Fabien.
Voilà, ça me fait plaisir de vous revoir.
Mais franchement, c'est super sympa de t'avoir avec nous. On fait une petite visite annuelle maintenant, comme ça, pour faire le bilan un peu de cette année. Et dis donc, il paraîtrait que maintenant tu me vouvoies à l'antenne, alors que leur antenne, tu me tapes la bise limite.
Non, mais bien sûr, on se connaît très bien. Je fais semblant de vous voyez parce que c'est le je suis très impressionné de voir Alain en vrai. Du coup, oui, c'est vrai qu'on se tutoie dans la vraie vie, oui, c'est vrai. C'est
bon, mon cher Fabien, en tout cas, on est tellement heureux de te retrouver tous les soirs. C'est délicieusement, des fois, pervers. Et à la fois, il est délicieusement méchant, des fois machiavélique. Mais on l'aime, notre Louis Guinaud, parce que je crois qu'en fait, bah, tu as eu la façon, des fois, de le faire tourner de façon à ce qu'il soit tellement attachant, finalement, ce Louis.
Je vous remercie grandement de souligner ce point-là. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces flatteries. Je sais qu'il y a une pointe de sincérité dans ce que vous avancez. Et effectivement, j'essaie de rendre Louis Guinaud un petit peu moins antipathique, si possible. Ce qui sert évidemment le scénario en permettant au scénariste de le rendre encore plus machiavélique. Parce que évidemment, quand tu es sympathique, tu es encore plus un arnaqueur.
Mais quand il devient gentil, on se demande même, mais qu'est-ce qu'il prépare ? C'est louche quand même.
Eh ben, en réalité, faut demander au scénariste parce que moi-même, je découvre au fur et à mesure. Mais je commence à évoquer des pistes et puis que les choses se font en bonne intelligence, si possible, enfin quand c'est possible. Et voilà.
Alors, pour la suite, justement, pour ce printemps, Fabien, il nous attend des belles choses avec Charlène. Is back ou pas is back ? Parce que là, ça paraît quand même dead, hein, comme on dirait.
Ouais, ça paraissait
jeune.
Ça paraissait dead, et puis au service du romantisme le plus exacerbé, il se trouve que deux personnages qui ont fini par se détester et par se battre à coups de vengeance répétée ont fini par succomber à la chimie des corps et de l'esprit, et finalement ils se sont retrouvés. Et c'est magnifique. Après, il faut admettre que c'est toujours assez facile et agréable de se replonger dans les yeux de Biche, de Paula Petrenko. Donc ça demande peu d'efforts de faire semblant de tomber amoureux de cette créature.
Alors, faut dire que non seulement Aria Paula, mais aussi les décors sont formidables. Ce château est magnifique. Les jardins, les parcs, vous évoluez dans des décors tous qui sont quand même assez magiques et bucoliques finalement.
Oui, c'est vrai, c'est l'un des aspects
positif et enivrant de cette série, c'est le choix de décors naturels, qui, en plus de renforcer la crédibilité de l'histoire, enfin du décor lui-même, permettent de faire se développer entre nous des relations beaucoup plus agréables que si tout était tourné en studio. Parce que dans un studio, vous avez froid, il fait humide, l'ambiance n'est pas la même, et vous voyez pas la lumière du jour. C'est le gros avantage d'Ici Tout Commence, les décors naturels. C'est toujours un plaisir de regarder les murs de ce château et de voir des décors nouveaux se créer sous la plume experte des scénaristes, et surtout le talent inouï et la technicité des gens qui sont à l'équipe ce qu'on appelle de la décoration. Sur un tournage, il y a une équipe de gens, de menuisiers, de peintres, de décorateurs, et j'en passe, qui créent des décors en quelques jours. C'est extraordinaire. Et c'est des gens passionnants qui savent absolument tout faire. Ces gens travaillent beaucoup plus que les acteurs.
Est-ce que des fois tu mets un petit peu ta patte dans les dialogues? Est-ce que tu as un peu cette liberté ou pas de déroger un tout petit peu de ce qui est écrit au mot près?
Je vous remercie de souligner ça. Oui, j'essaye de m'approprier un petit peu les dialogues. Je sais que Louis Guinaud est écrit de telle ou telle manière et j'essaie de la respecter. Par contre, j'essaye de le rendre un peu moins caricatural ou puéril ou misogyne que ce qu'auraient voulu fut un temps certains scénaristes apparemment. J'ai essayé de gommer un petit peu de ces aspects pour en renforcer d'autres. J'ai essayé d'ajouter de l'humour, de l'ironie et de la légèreté, mais ça a été un long combat, et maintenant je crois que l'équilibre est plus intéressant. Peut-être me trompais-je, mais je crois qu'il est plus intéressant qu'auparavant.
Ici Tout Commence, ça ouvre des portes. T'as tourné dans l'adaptation de la vie de Brigitte Bardot, notamment. Ça permet aussi de se nourrir de d'autres expériences. C'est ce qui est important pour un comédien, bien sûr, aussi.
Je sais pas si Ici Tout Commence a ouvert les portes, parce que je crois que mon arrivée sur le casting de Bardot, en l'occurrence, ou d'autres choses dont je vais vous parler, n'a rien à voir avec Ici Tout Commence. Évidemment, ça ouvre les portes d'une certaine popularité que je sais très circonstancielle et très relative, mais réelle tout de même à certains égards. C'est très agréable de pouvoir discuter avec des gens qui vous portent une sympathie qui est liée évidemment à vos passages à la télévision, mais encore une fois, tout ça est très circonstanciel. Et oui, bien sûr, j'ai envie d'élargir l'horizon, j'ai envie de faire des choses plus historiques, plus fantastiques, avec plus d'action, et voilà, Ici Tout Commence m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, de rencontrer des gens avec plaisir, de gagner des sous évidemment, de me faire des amis. Maintenant, il faut aller voir ailleurs un petit peu. Voilà.
Bah oui, exactement. Et puis se nourrir de d'autres choses, de d'autres acteurs, de d'autres producteurs, absolument, d'autres réalisateurs. Ça, c'est très important aussi.
Pour revenir éventuellement, selon les désirs de la chaîne et des scénaristes, avec plaisir et efficacité dans Ici Tout Commence. Rendons-nous mutuellement service, bien sûr.
Oui, et du public. Tu vas voir que le public ne va pas mettre beaucoup de temps à te réclamer. Je te le dis, mon cher Fabien.
J'en profite pour remercier les gens qui... Alors, certains confondent complètement Louis Guinaud et Fabien, ce que j'entends très bien. Ils le voient tous les jours à la télé. J'entends très bien qu'au bout d'un moment, tu fasses plus trop la différence. En revanche, les gens qui me crachent dessus dans la rue, etc., font partie de... Non, mais tu vois, ça arrive vraiment, tu vois. On m'avait dit, je pensais pas que c'était vrai, mais c'est vraiment vrai, tu vois. C'est un truc de ouf. Et en fait, bon, ça peut être marrant, mais ça peut être aussi un petit peu déstabilisant. Et je suis passé un peu par toutes les étapes. Je profite de ce moment pour présenter mes excuses aux rares, très rares, mais véritables personnes qui m'ont insulté et avec qui j'ai répondu naïvement et faiblement par l'insulte. En fait, j'ai essayé d'expliquer à de nombreuses personnes que je n'étais pas Louis. Ces gens m'expliquaient que si, quand même, et ça m'a joué des tours. Alors évidemment, l'écrasante majorité des gens est particulièrement bienveillante. C'est toujours un grand plaisir d'échanger avec eux, mais je rappelle que je ne suis pas Louis Guinaud et que je suis même à de nombreux égards son exact opposé.
Et n'oublions pas, évidemment, que nos comédiens incarnent des personnages avant tout, et qui sont au service de ces personnages, certes, mais qu'ils incarnent des personnages, quoi qu'il en soit. Tes projets pour 2023.
Merci de me demander, c'est très agréable et très élégant de votre part. Alors, mes projets pour 2023. Alors, donc il y a effectivement Bardot qui doit être diffusé.
Ça va arriver d'une semaine à l'autre.
Quoi d'autre? Alors je viens de tourner un pilote avec un ami qui s'appelle Fabrice Ourlier pour essayer de lancer un long métrage extraordinaire sur la guerre de 14 qui aurait continué. Univers steampunk génial. D'autres projets, j'ai failli faire un film sur la résistance, tourné l'histoire d'un, notamment d'un résistant belge, dans un film produit par une production internationale basée en Pologne par le mec extraordinaire qui a produit Katyn à l'époque, il y a assez longtemps. Je n'ai pas pu le faire à cause du calendrier Ici tout commence. C'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis dit qu'il fallait essayer de trouver de la liberté et essayer d'aller voir aussi ailleurs. Je vais enfin lancer, si possible, avec entrain et enthousiasme et curiosité et appétit, mon film sur la résistance dans le Vercors en juillet 44, sujet qui me fascine et qui me passionne. Autrement plus large, je trouve que les états d'âme de certains personnages caricaturaux dans une cuisine. Et puis du théâtre, bien sûr. Alors il y a la fameuse histoire de James Dean, mise en scène par mon ami Jean-Philippe Bèche, qui a été un tout petit peu repoussée, mais qui évidemment va se faire et ça va être chouette. Je fais James Dean avec Monsieur Valentin de Carbonnière, fort sympathique aussi. Et puis une autre pièce aussi. Et puis on m'a parlé d'une autre pièce aussi, mais alors là j'ai pas le droit de le dire, mais c'est assez concret et c'est avec un grand plaisir que je retournerai évidemment sur les planches. Voilà. Et puis pour la télé, il y a un autre truc.
T'en as pour jusqu'à au moins fin 2024 là déjà.
Ouais, ça... non, mais il se passe un truc, c'est cool. Enfin, ça y est, voilà. Et puis, surtout ça me donne envie de relancer mes propres projets parce qu'à un moment, on ne peut pas être que acteur. Et je retrouverai le plaisir de l'être en faisant autre chose. Voilà.
C'est bien dit ça. Bon, merci mon cher Fabien. En tout cas, on se dit à très vite. On sera là pour être à tes côtés, évidemment, pour tous ces projets. Et on te dit à très bientôt.
Merci infiniment.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, spécial Léo Mattei pour fêter les 10 ans de la série. Jean-Luc Reichmann sera notre invité exceptionnel avec Nathalie Lecoultre. Nous aurons le plaisir de parler également du retour de Je te promets, de la sortie du film Les Complices, Laura Felpin, François Damiens, William Legbill et la réalisatrice Cécile Roux seront avec nous.
Attitude.
Et n'oubliez pas que Chute, on écoute la télé sur Attitude, c'est aussi la quotidienne du lundi au vendredi à 10h07, midi 7 et 16h07. Vous pouvez aussi retrouver le podcast de cette émission dès ce soir, 20h, sur notre site internet onécoutelatélé.com et nous suivre tout au long de la semaine sur nos Facebook, Instagram et applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Cette émission sera également rediffusée demain soir à 19h. Alors il ne me reste plus qu'à vous souhaiter en tout cas une très belle après-midi à l'écoute de nos programmes sur Attitude. À tout à l'heure, 16h07 pour la dernière quotidienne de la journée.
Chute, on écoute la télé avec France Pare-Brise Cognac. Intervention sur tout type de vitrage et sur tout véhicule. France Pare-Brise est agréé toutes assurances et vous propose le prêt d'un véhicule en cas de besoin. Alors n'hésitez plus. Prenez rendez-vous chez France Pare-Brise, 79 avenue de Sainte à Cognac.
Chute, on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc à Ruffec, votre référence culturelle en Nord-Charente.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente en Charente sur mariemorin.fr.